Merci d'être venu jusque-là.
De rien.
Merci.
On fait un entretien avec Naomi Niederhauser et Urgent Paradise pour Usure Press. L'idée de cet entretien, c'est de parler un peu de tous les projets que tu as autour des champignons. Nous, on s'est rencontrés autour de ce projet que tu as fait au Sénégal. Mm-hmm. Et du coup, peut-être que tu peux raconter un peu... Enfin, je ne sais pas si c'était le premier projet que tu as fait autour des champignons ou s'il y avait des choses avant. Comment tu t'es intéressée d'abord aux champignons
Ouais. Non, ce n'est pas le premier, mais c'est le premier qui a eu, disons, une visibilité extérieure. Enfin, j'ai fait pas mal de tests déjà quand j'habitais en Grèce. Enfin, j'ai habité quelques temps à Athènes avec un mycologue là-bas. On a travaillé sur un projet qui ne s'est jamais réalisé, mais disons que ça nous a... donner le goût et l'envie de découvrir plus là-dessus. Donc voilà, la culture de champignons, je l'avais déjà expérimentée, mais à plus petite échelle, plus dans ma cuisine et dans sa cuisine. Et voilà.
Et puis après, comment ça s'est passé, en fait, ton voyage au Sénégal
Ouais, bon là, ça fait maintenant bientôt 3 ans, je crois. J'ai été invitée sur un... en résidence dans un centre de recherche qui invite des artistes et des gens plutôt du milieu théorique, des gens du milieu de la littérature, juste pour en fait passer 2 mois ensemble avec des avec des intervenants qui viennent de Dakar. Et moi en fait, en allant au Sénégal, j'avais déjà en tête une petite entreprise faite par une femme en Casamance dans le sud du Sénégal qui avait justement monté une ferme à champignons. Et puis j'étais assez, je dois dire, estomaquée déjà. Elle était très jeune. Et puis dans une région où on mange des champignons, mais plutôt des champignons sauvages, c'est pas du tout une culture en tant que telle. Donc les gens sont habitués à en manger, mais pas nécessairement au quotidien. Donc en fait, voilà, je trouvais qu'il y avait pas mal de paramètres assez intéressants. J'avais juste envie de la rencontrer. Et en fait, j'ai jamais pu la joindre. Donc Facebook, tout ça, c'était toujours une ligne sans issue. Mais dans mes recherches pour la joindre, j'ai eu le contact de Latsouk Tunkara, qui est un professeur à l'Institut de technologie alimentaire à Dakar. Et en fait, je l'ai contacté et il m'a reçu. Et il se trouve que c'est lui qui a formé Bediane Debounladé, qui est cette femme en Casamance. Et du coup, je lui ai un petit peu expliqué mon intérêt pour les champignons, mais plutôt du côté création de matériel. Et comme quoi j'avais déjà fait des expérimentations, et que j'avais cet intérêt-là. Et puis, lui, c'est un passionné de mycologie. Donc, il l'a appris sur le tard. C'est pas sa formation initiale, mais il l'a appris sur le tard. Et en fait, il m'a fait découvrir différents laboratoires dans différentes régions du Sénégal qu'il a mis en place pour faire pousser des champignons et en fait pour amener des coopératives de femmes qui s'étaient formées à la base pour la culture halieutique. Tout ce qui est en lien avec la pêche, etc., au Sénégal, c'est assez catastrophique. Donc, en fait, il n'y avait plus de revenus. Et il leur a, en fait, transmis son savoir. Et il a fait différentes espèces de laboratoires expérimentaux à différents endroits. Certains ont marché, d'autres moins, à cause de plein de paramètres. Mais le temps que les gens avaient à disposition, l'envie, il y a plein de choses qui sont entrées en ligne de compte. Mais il y en a un qui est à 3 heures de Dakar, à Pointe-Sarène, où la coopérative de femmes a totalement pris le projet en main. Et du coup, on est allé visiter cet endroit. Et en discutant avec elle, en discutant un peu, en voyant tout le projet, a émergé l'idée, en fait, de mettre cet aspect matériau, utilisation, en fait, du mycélium ou du substrat pour un matériel dans cette culture de champignons. Et parce qu'actuellement, elles utilisent n'importe quelle bassine en plastique qu'elles découpent pour en fait faire le substrat et faire pousser les champignons. Et l'idée, en fait, qu'elle a émergé, mais c'était une histoire de rencontre, c'était pas prémédité. Mais l'idée a émergé de créer des contenants spécifiques avec des formes spécifiques, donc qu'elles cultivent tout de la même manière, mais qu'ensuite, une fois qu'il y a une ou deux récoltes qui se sont faites, qu'on peut en fait sécher ce substrat qui est déjà formé. Et que cette forme et ce matériel peut être utilisé pour différentes choses.
Parce que le substrat, il n'est plus du tout utile après 2 cultures.
Alors, tu peux réinoculer ou alors tu peux le composter, donc remettre dans les champs. Mais pour réinoculer, il faut restériliser, il faut réavoir des spores de base qui ont été faits en laboratoire, parce qu'il y a différentes étapes. Et en fait, la toute première étape, qui est comme la graine finalement d'une plante, enfin, le champignon mère, le spore mère, ça, il faut vraiment que ce soit fait dans un environnement aseptisé. Du coup, ça, c'est toujours l'Institut des études alimentaires à Dakar qui leur fournit cette étape de base avant de pouvoir faire les autres transformations. Et en tant que tel, oui, tu pourrais, mais tu devrais repartir de zéro, tu vois. Réinoculer, restériliser, etc. Et potentiellement remélanger avec d'autres substrats qui ont... parce que ça mange quand même le sucre. Donc, au bout d'un moment, il y a quand même plus assez de sucre. Donc, voilà. C'est finalement, là, c'est un processus qui fait vraiment le cercle. Et là, c'est comme si on ajoutait une étape dans le cercle, mais au final, après... Même si tu fais du matériel avec, une fois que c'est utilisé, ça peut aussi être composté ou aussi être réutilisé.
Puis du coup, là, vous en êtes où dans le processus, ou c'est quoi toutes les étapes du cercle que tu décris ?
Alors là, le lab existe. Quand moi, je suis allée visiter, le lab existait, mais en toute, toute petite dimension, dans une case en paille, parce que c'est très... En fait, il faut quand même gérer l'humidité à la température. Et la paille, c'est un matériel qui se trouve sur place et qui est très bien pour ça. En fait, il a toutes les propriétés pour ça. Du coup, mais là, c'était, 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres. Du coup, elle produisait de A à Z une qualité super, mais pas assez. Donc, pour l'instant, elle les sèche. Elle les séchait à l'époque. Parce qu'elle ne pouvait pas les vendre frais, parce qu'il n'y avait pas de rendement. Donc, elle ne se faisait pas encore nécessairement du revenu ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'on a mis en place, j'ai fait des recherches de subventions en Suisse pour pouvoir en fait avoir un laboratoire un peu plus grand. Et ce qui s'est fait, donc en fait, mais avec toujours la paille, enfin les mêmes matériaux, mais juste à une dimension un peu plus large, ça c'était en train de se mettre en place en mars. Après, il y a eu un petit problème de feu. La paille a pris feu. Enfin, il y a deux, trois choses qui ont brûlé. Voilà, ça fait partie des choses. Et ils ont recommencé de zéro. Et là, ils sont en train de finir le grand laboratoire. En parallèle, on a testé différentes formes pour faire du packaging pour des bouteilles, pour une distillerie qui se trouve à 5 km de là, qui fait déjà de la liqueur. Et on a engagé un partenariat. Après, c'est compliqué. Ils veulent voir un résultat avant de dire oui, etc. Mais disons qu'on est en train de faire des prototypes pour voir comment leur bouteille pourrait potentiellement être en fait emballée dans ce substrat et dans ce mycélium. Donc on en est là. Tout a été un peu retardé, mais là, c'est ce qui se met en place maintenant. Ouais.
Du coup, tu vas retourner dès que possible sur place.
Ouais, j'aimerais bien cet hiver. J'aurais déjà voulu aller cet été, mais bon, voilà, j'aimerais bien cet hiver, ouais. Pour aussi, juste pour voir où ça en est, et puis qu'on puisse... Bon, c'est toujours la distance, c'est compliqué. Donc là, on communique beaucoup par email et Facebook, mais bon, voilà, enfin, ça fait pas tout, quoi. Et ouais. Mais là, le but premier, avant toute chose, c'est vraiment que le rendement soit un peu plus grand. Et après ça, d'ajouter cette partie plus design, plus matériel, mais elle n'est pas prédominante dans le projet, on va dire. Voilà où on s'en est un petit peu pour l'instant.
Et puis, tu m'interromps.
Oui, oui.
Au vu des nombreux projets que tu as autour des champignons, toi, c'est quoi qui te fait autant, qui t'inspire autant, ou qu'est-ce qui te fait, c'est quoi les perspectives que les champignons ils ouvrent, qui font que tu travailles autant sur les champignons, ou bien c'est quoi un peu que tu projettes sur les champignons qui te font, ouais.
Oh là, ça, elle est vaste la question. Je sais même pas si je me la suis déjà posée comme ça, mais. Peut-être pour revenir en arrière, moi j'ai une formation quand même de céramiste, et puis après j'ai fait d'autres formations, mais ça a quand même été ma base. Et la céramique, c'est vraiment, on va au cœur des matières, enfin, on comprend les minéraux. Moi, le tableau de Mendeleïev, je l'ai compris en faisant de la céramique. Hein. et du coup, c'est vraiment, on décortique les choses jusqu'à venir à aller aux éléments de base et à les remettre ensemble. Et c'est aussi un processus où on a une part d'aléatoire très grande. Donc, tu as les matériaux qui parlent d'eux-mêmes. Et moi, ça me fascine. Et j'adore faire des tests. Et avec les champignons, il y a quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'on peut mettre un cadre mettre des choses ensemble. Et après, il faut laisser vivre ce qui se passe. Et moi, je trouve ça très beau. Et je pense que c'est ça qui me fascine dans ce processus-là, en fait. Et au-delà de ça, c'est que c'est partout. C'est partout, c'est invisible et peu de gens le savent. Après, il y a des gens plus experts qui se rendent bien compte de ça et que pour eux, c'est... Voilà, ça ne sert même plus à rien de le dire. Mais je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte que c'est partout et que c'est souvent vu peut-être d'une manière un peu négative. Au-delà du fait des pleurotes et des chanterelles qu'on mange, le reste, on n'en veut pas. Dans nos maisons, on n'en veut pas. Enfin voilà, on voit la moisissure. Enfin tout ça, en fait, ça fait partie dans notre imaginaire de quelque chose à éliminer. Et je pense que ça vaut la peine de re-questionner ça. Du coup, ouais, peut-être aussi pour ça.
Et est-ce que depuis le moment où tu as commencé à travailler avec les champignons comme un matériau dans ton travail, est-ce que ça a d'une certaine manière changé le rapport que tu pouvais avoir avec eux, par exemple dans le fait de les cueillir ou de les manger est-ce que le fait que ça devienne d'un coup un matériau, ça a modifié ton rapport à eux?
J'ai appris déjà à aller les cueillir parce que je sais en planter certains, je sais comment ils poussent. Après, j'ai deux trois amis qui eux sont beaucoup plus experts dans aller les récolter dans la nature. Donc ouais, ça clairement. Et puis de me rendre compte qu'il y en a qui repoussent chaque année au même endroit, puis que c'est des zones secrètes qu'on se partage pas vraiment. Enfin, moi je trouve il y a un monde derrière qui est absolument fascinant. Donc oui, de ce point de vue-là, ouais. Et puis aussi de la simplicité de la chose. En fait, de la simplicité de cultiver des champignons dans sa propre cuisine, c'est quand même génial si on y pense. Et puis, au-delà de ça, je pense que les gens qui sont fascinés par ça, ils ont une manière de penser le monde aussi qui est beaucoup plus ouverte. Enfin, on peut pas... C'est pas chasse-gardée, quoi. Tu partages... parce que le champignon, c'est ça. Donc, je trouve là aussi, un peu plus conceptuellement ou philosophiquement, je trouve ça très beau, en fait, comme manière de faire fonctionner une pensée. Au-delà de les manger ou de les mettre dans la fondue.
Et du coup là on a vu que tu avais un autre projet qu'on pourrait intégrer dans les champignons mais de manière un peu plus large. Est-ce que tu auras envie de nous raconter ce projet de fermentation?
Ouais. Alors ça c'est un projet que j'ai fait l'année passée, j'ai été invitée en résidence en Hollande dans un centre céramique. Et ça faisait de nouveau le lien hein, céramique champignon, mais ça faisait longtemps que j'avais envie d'expérimenter en fait la fermentation, parce que la plupart des pratiques de fermentation dans le temps elles ont été faites dans des contenants céramiques. Et je pense que non seulement j'adore ça, j'adore manger des kimchi, j'adore ce processus là et je me suis toujours dit que c'était assez fascinant parce que il y a cette idée de pouvoir transformer de la nourriture dans sa cuisine, de laisser le temps faire et d'avoir rien besoin d'autre que ces éléments là dans un contenant qui est adéquat. Je crois que l'idée c'était de vraiment un petit peu remettre ça au goût du jour, même si c'est des pratiques connues. Moi je parle de ça à mes parents, pour eux ça fait sens, à nous peut-être un peu moins. Mais j'avais envie un peu de revisiter ça. Et du coup j'ai fait une jarre, une forme de jarre, mais qui avec en fonction des embouts et des manières d'ouvrir et fermer, elle a trois propriétés différentes. Et du coup il y a une jarre à fermentation, donc ça c'est avec des pots en céramique, mais qui maintient les légumes et tout ça dans le fond, dans le liquide. Et un autre c'est pour recycler le vin. Et du coup, là, c'est avec une pipette où on peut extraire le vin, mais toujours dans la même forme. Et le troisième, c'est un frigo qui, en fait, utilise les propriétés de la céramique, parce que la céramique, c'est poreux. Donc, en fait, ça a une capacité de dégager la chaleur, d'enlever la chaleur de l'intérieur et pas de l'emmagasiner. Et ça, c'est des techniques traditionnelles qui existent dans le désert, au Maroc. En Iran, ils ont des énormes frigos en fait dans le désert où ils ont creusé et qui permet juste parce que la matière en fait autour permet l'évaporation de la chaleur, etc. Donc en fait ça existe depuis très longtemps. Moi j'avais envie juste de revisiter ça et de permettre en fait une sorte de forme uniforme pour ces trois manières de transformer de la nourriture. Du coup c'était ça mon but premier. Et puis après, étant donné que c'est des processus qui sont invisibles à l'œil nu, parce que les jarres, elles sont en céramique, on ne voit pas ce qui se passe dedans, j'ai travaillé, je fais 400, 500 tests pour comprendre comment, en fait, amener l'extérieur de mes jarres à en fait refléter ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait tout le pattern qui a, enfin le pattern ou les couleurs qui se sont répandues autour des formes a été fait en laissant justement une fermentation se faire sur les pièces. Et du coup, ça permet en fait d'avoir voilà, une sorte de d'entrée sur ce qui se passe à l'intérieur. Et, mais c'est figé, bien entendu. Mais voilà, j'ai laissé faire de la levure, du sucre, de la farine, du cobalt, et deux, trois autres trucs. Et puis, je les ai laissés une nuit tout seul. Et puis, ça a marché. J'ai une fois, après pas. Puis après, j'ai compris à quelle étape je devais mélanger ça et aussi à quel état de liquide, en poudre. Voilà. Enfin, et c'était ça l'idée derrière le projet.
C'est intéressant, tu vois, comme tu racontais les champignons, qu'il y a une part qui est tout le temps aléatoire. Et puis, de ce que tu racontes, il y a le design qui rentre dans ta pratique de céramiste ou dans les histoires autour des champignons. Et du coup, il y a vraiment cette part d'aléatoire que tu contiens toujours dans ton travail de designer, en fait.
Ouais.
C'est un truc qui fait partie de ta pratique.
Ouais. Ouais, parce que je pense que quand on travaille avec des matériaux, ils amènent des contraintes, ils sont capables de faire certaines choses ou pas. J'aime pas, enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse moyennement de contraindre quelque chose sur un matériel et de pas le laisser parler lui-même. Et je trouve que souvent, en fait, c'est plus intéressant, ça, en tout cas pour moi, dans comment je perçois les choses. Et du coup, je laisse faire ça. Après, bien entendu, je mets plus ou moins des choses ensemble. Donc, j'ai ma patte, mais il n'y a pas l'humain qui fait tout, quoi.
Et puis après, dans ta pratique de design, quelle place... Enfin, tu nous as envoyé des images, on en a vu par ailleurs. Certaines, on va les montrer dans Usure Press. Et je me demandais à quel moment ça intervenait, ça, ce rapport à l'image que tu as, et à quel moment, dans ton processus de travail, tu te mettais à faire ces images.
Dès le début.
Dès le départ.
Ouais. Typiquement, quand je fais des processus où je fais 300 à 500 échantillons, j'ai une banque de données après. Donc, en fait, oui, pour moi, c'est pour garder des traces. Hein. Pour peut-être dans 10 ans, si je veux refaire quelque chose, je sais d'où je suis partie et je ne refais pas le processus de zéro à chaque fois. Mais c'est autant une matière de travail pendant le process qu'une sorte de trace après coup. Et ça fait, enfin, pour moi, ça fait sens qu'un projet, c'est pas juste le produit fini, mais en fait, toute la manière dont ça a été construit, même si c'est invisible une fois que j'ai fait je sais pas quoi, pour moi, ça doit être fait de la même manière, avec la même éthique de pensée. Voilà. Donc en fait, finalement, ça permet aussi de relater l'histoire et la chronologie d'un travail.
Du coup, c'est les projets sur les champignons, il y en a d'autres que tu es en train de lancer ou il y en a d'autres que tu as encore dans ta pratique
Je suis en train de le faire germer dans ma tête, mais oui, je vais continuer avec la céramique et la fermentation, mais encore plus imbriqué dans la matière. Mais du coup, là, j'ai en tête plein de potentiel, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Il faudra que j'essaye pour voir, mais oui.
Parce que là, pour le moment, dans les processus de fermentation, du coup, c'est les fermentations genre choucroute, kimchi, et saumure, au salé.
Ouais, pour la fermentation, oui.
Et puis après, il n'y a pas les kombucha, par exemple.
Non, pas dans ces jarres-là, mais tu pourrais potentiellement. Mais moi, je n'ai pas encore expérimenté ça. Et puis, je pense que peut-être la dimension des jarres, elle n'est pas nécessairement adaptée à ça pour l'instant. Mais tu peux essayer, enfin... Qui essaye pas, c'est pas, mais je l'ai pas pensé pour ça, pour l'instant.
Parce qu'il y aurait encore le kéfir, là il y a les mers vinaigre, c'est ça, pour le vin.
Ouais. Ouais. Ah ouais, après il y a un panel de choix très grand. Hein.
Parce qu'il y a quoi comme autre champignon? Parce que moi je connais que ce que je viens de te lister. Mais
tu dis pour manger?
Ouais, ou dans l'expérimentation. Enfin, en fait, ce qui me fascine avec avec le vinaigre ou avec les saumures, c'est que c'est aussi un processus vivant. Du coup, tu es obligé d'en prendre soin.
Bah oui.
Et du coup, tu l'as dans ta cuisine, puis tu sais qu'il est quelque part et que tu peux pas complètement l'oublier. Comme le levain, d'ailleurs.
Comme le levain, c'est la même chose, ouais.
Et du coup, moi, c'est cet aspect-là. Je me dis, j'ai un peu tous mes compagnons et compagnonnes qui sont autour de moi et puis que je dois un peu checker de temps en temps pour être bien sûr qu'ils sont encore vivants et leur redonner
à
manger.
Bah, pour être honnête, à part tous ceux que tu as mentionnés, je sais qu'il y en a des fois aussi qui interviennent dans le fromage, moi je connais pas le panel plus large pour l'instant, mais je voudrais bien si ça existe, mais là
moi j'ai encore un truc, c'est le compost.
Oui.
J'utilise des micro-organismes qui font fermenter le compost.
Oui.
Et du coup, comme c'est dans un compost en milieu anaérobique, il peut être plus rapidement fermenté. Et puis après, tu l'enterres pendant 2 semaines. Et puis ensuite, ça devient. Tu le mélanges à de la terre. Et puis ça devient un substrat très très riche de terre. Mais c'est assez rapide comme processus au final. Ça, c'est Bokashi.
Ok, ben tu vois, je connaissais pas ça.
Ça, c'en est encore un auquel je pense, mais c'est des micro-organismes. Puis moi, je connais pas très bien les différences entre bactéries, micro-organismes, champignons.
Pour être honnête, je vais pas dire que je connais nécessairement plus, mais là, c'est pas une bactérie en l'occurrence que tu utilises.
C'est micro-organisme.
Ouais, c'est un micro-organisme. Franchement, je sais pas, faut demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux.
Ouais, moi, je
vais pas prétendre. Pas.
Moi non plus. Mais on fait quand même le lien entre les processus de fermentation et les champignons, quand même. Il y a quand même un lien comme ça qui se fait. Probablement qu'il y a des liens biologiques, même.
Ouais.
Je sais pas non plus exactement.
Peut-être dans la manière dont ça se... Pas ça pousse, pas ça pousse pas. Mais dans la manière dont ça se propage, il y a peut-être quelque chose de similaire. Tu vois? Enfin, que c'est plus proche que de plantes. Mais là, peut-être je dis des conneries, hein, mais...
Il y a toujours le montage.
Non, j'en sais rien. Moi, tu sais, j'y vais un peu à la fraîche. Il y a un truc qui m'intéresse et après, et c'est ça en fait, c'est que tu découvres qu'en fait, tu peux aller plus loin et plus loin et plus loin. C'est dur d'aller dans toutes les directions à fond, donc,
Mais c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y a la possibilité d'être purement expérimental avec ces matériaux-là, j'ai l'impression.
Mais du coup, justement, la forme que ça prend, au-delà de la question, c'est vraiment sur les images, maintenant sur la forme, étant donné que tu pars d'expérimentation d'une idée de matériaux ou d'une idée d'interaction entre des matières, à quel moment tu... Parce que ça doit être compliqué, non, du coup, de figer une forme alors que le départ était aussi mouvant et aussi... avec des possibles aussi vastes. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'un coup de devoir arrêter une forme là-dedans?
Bon, c'est pour ça que je vais continuer le processus.
Ah oui.
Mais oui et non, parce que là, en tout cas, pour le projet lié à la fermentation et à ces différentes jars, non, j'ai aucune frustration dans le sens où moi, j'avais vraiment, mon but, c'était de faire quelque chose de plus fonctionnel, tu peux pas. Donc, voilà. À un moment, ça nécessite de délimiter une forme, etc. Non, la frustration, elle n'est pas là. Par contre, l'envie d'aller toujours plus loin, oui, elle est claire. C'est sûr. C'est sûr.
Et puis, par rapport aux différentes rencontres que tu as faites, parce que là, tu nous as parlé de la Grèce, ensuite du Sénégal, et puis ensuite de la Hollande. Est-ce que, en fait, sur chacun des territoires, tu as rencontré à chaque fois des mycologues qui t'ont... Tu étais toujours en contact avec d'autres personnes ou tu as rencontré d'autres champignons que tu ne connaissais pas avant? Enfin, toutes ces rencontres que tu as faites, ça doit aussi être un peu rhizomatique dans le... il y a comme une sorte... Même dans ta manière de voyager ou d'aller faire les projets, il y a quelque chose qui est plus éclaté, que tu ne fais pas tous tes projets dans un laboratoire ici à Lausanne.
Après en Hollande, non, pas nécessairement. Par contre, en Hollande, j'avais des gens qui connaissaient beaucoup toute la fermentation, mais c'est moins lié à la mycologie quand même, hein, mais qui connaissaient les techniques traditionnelles. Donc ça, j'en ai rencontré pas mal. Mais c'est dur à répondre parce que je sais pas, ça se crée comme ça, ça vient comme ça. En Grèce, c'est parce que on a commencé à travailler sur un projet, puis j'ai eu un ami qui m'a dit « Ah, mais moi, je connais quelqu'un dans le nord de la Grèce, en Thessalonique. » Et puis du coup, lui, il est fasciné par les Ganoderma, qui sont des champignons, qui en fait sont encore presque plus intéressants pour faire du matériel, parce qu'en fait, c'est ces gros champignons qu'on voit pousser sur les troncs d'arbres en forêt, tu vois, vraiment. Et ça, c'est méga solide. Et du coup, ça te permet, quand ça pousse sur du substrat, d'avoir une matière super dense. Et puis vraiment, en termes de qualité technique, similaire à du bois ou à du contreplaqué. Et du coup, là, on est encore en train de potentiellement... il doit m'envoyer des échantillons que je reçois très bien par la poste, si jamais. Hein, les champignons, il n'y a personne qui les intercepte. Enfin, les spores. Pourtant, on pourrait se dire, maintenant, je n'ai jamais eu aucun problème de recevoir une lettre remplie de champignons, du début du champignon, toi, des filaments, par la poste, pour vraiment tester cet aspect-là. Mais c'est des rencontres comme ça, en fait. Fortuite. Et je pense que la plupart des gens qui s'y connaissent là-dedans sont tellement contents d'avoir quelqu'un qui s'y intéresse que, en fait, le partage, il est assez facile.
Ouais. Là, j'aurais encore deux pistes là, que tu as ouvertes. C'est prochainement, tu pars en Chine si c'est...
Oui, je pars en Chine, ouais.
Et puis du coup, là, ça sera aussi des projets liés à des champignons.
Ouais, ouais.
Ou à de la fermentation.
Liés à de la fermentation et de la céramique. Donc vraiment essayer de... faire la fermentation à l'intérieur même de la matière, porcelaine ou argile, etc. Et pas seulement sur l'extérieur. Et voir comment ça fonctionne. Donc ça sera un projet comme ça. De nouveau, en lien avec des gens. Et là, j'ai plein d'idées, mais en fait, il peut se trouver que tout d'un coup, je rencontre quelqu'un sur place qui a... Enfin, voilà, je sais pas. Ou alors que ce que je pense, c'est pas du tout... Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça. Mais oui, ça, je vais faire. Et puis, je continue un peu avec la graisse, mais... C'était aussi un peu tout s'est aplani ces derniers mois, donc voilà, mais ça reprend gentiment. Ouais.
Et puis avant, tu parlais de techniques traditionnelles de fermentation, c'est des techniques hollandaises traditionnelles de fermentation, ou c'est quoi le traditionnel contemporain?
La fermentation, la choucroute, un peu comme en Allemagne finalement, ça s'utilise depuis des générations et des générations. Donc ils avaient, dans leur cuisine à l'époque, ils avaient tout ça, moins le vinaigre. Et les frigos, ça vient clairement principalement d'Afrique du Nord ou plutôt vers l'Iran, etc. Mais oui, la choucroute, tout ça en fait, tout ce qui est pour garder l'hiver, des aliments qui ne poussent pas l'hiver, c'est comme les conserves qu'on a maintenant, sauf un peu meilleures que des conserves. Quoi. Ouais.
Je me demandais, mais c'est anecdotique, mais la recette du coup que tu nous as envoyée et qu'on publie dans les presse, ça s'est passé parce que c'est l'extrait d'un email et ça s'est passé quand? C'était au début du processus ou c'était plutôt après?
Tout au début. C'est quand j'ai fait mes toutes premières expériences en Grèce. C'était Ophilos qui me l'avait envoyé et puis justement il me disait comment y arriver le plus simplement. Donc c'était ça. Okay. Ouais.
En tout cas, moi, je suis en train de tester les pleurotes dans ma cuisine et j'ai des champignons.
Ouais.
Du coup, j'étais assez
avec
contente.
Avec cette recette?
Non, j'avais déjà commencé une recette avant que tu l'envoies.
Ouais.
Mais j'ai fait au feeling. Hein.
Avec du marc de café.
Et puis de la cire de bois.
Mmh. Ouais, le marc de café, ça marche bien. Quand c'est frais. Ouais. Enfin, genre, quand il est fait, il faut direct... autrement, ça pourrit. Puis c'est... Mais ouais.
Oui, exactement. Mmh. Mais après, je l'ai encore passé au four pour le stériliser.
Ouais, c'est bien. Ouais. Enfin, disons que tu dois le stériliser très rapidement. Mm-hmm. Autrement, il y a d'autres. En fait, il y a d'autres moisissures qui empêchent le champignon que tu veux d'aller dessus, quoi.
Mais du coup, j'ai essayé de faire un. J'ai mis des micro-organismes de mon compost dans le marc de café avec la sciure pour essayer de voir si ça pouvait stabiliser un peu ce truc de moisissure. J'avais peur qu'il moisisse.
Ouais.
Et puis, du coup, pour l'instant, ça a
marché.
Marche. J'ai deux petites pleurotes très mignonnes. En tout cas, c'était assez fascinant ce thème pour nous parce que les rencontres qu'on a fait ou les textes qu'on a reçus, en fait, je pense dans ce truc un peu éclaté, rhizomatique, qui part un peu... Marion Neumann, elle fait un film sur les champignons, puis elle va suivre en fait des personnes qui se sont intéressées aux champignons à un moment donné, puis du coup, elle rencontre cette Anna Tsing, la suit pendant un temps, puis après, elle va voir aussi ce... Peter McCoy qui s'occupe de Radical Mycology.
Ouais.
Et puis en fait, il y a aussi comme, un peu comme toi, tu racontes, c'est-à-dire des endroits dans le monde, des rencontres qui fabriquent un peu les projets. C'est peut-être que c'est le champignon qui crée ça.
Ouais, avec en plus des connexions ensuite, parce que c'est pas que elle dans son trajet qui génère des points de rencontre ou de connexion, c'est aussi que les personnes qu'elle voit sont elles-mêmes connectées. C'est ça le réseau, le mycélium en ce sens-là, c'est une interconnexion,
bien sûr.
Un réseau.
Ben là, typiquement, Latsouk Tunkara, qui est le professeur à l'Institut des biotechnologies, il a un prix en Namibie par un professeur chinois hyper réputé dans la mycologie. Et voilà, c'est la même chose. Et c'était aussi un peu un hasard. Et ouais, ça, là, voilà, la passion, elle a pris. Mais ouais, c'est un réseau. Et c'est assez génial parce qu'effectivement, je pense que tu peux aller dans le monde entier, tu peux trouver des gens avec qui communiquer là-dessus.
Et toi, tu vas aller rencontrer ce professeur chinois ? Ou lui, il est en Namibie ?
Non, lui, il est en Namibie. Il travaille à l'université en Namibie. Non, moi, je vais ouais, en Chine pour une résidence, mais je ne sais pas qui je vais rencontrer.
Les champignons ?
Pour l'instant, je ne sais pas. Ouais. Mais tu vois, le tofu, c'est de la fermentation aussi. Enfin, en Asie, ils ont toute une tradition hein, de faire fermenter des choses, le miso, enfin... Il y a plein de trucs. Du coup, ouais.
Là, ça ouvre des portes à l'infini. Là.
À l'infini, ouais. Et c'est très local à chaque fois, la manière de les utiliser. C'est ça qui est génial. Et ça c'est vraiment comment faire avec ce qu'on produit sur place.
Ça, c'est quelque chose qui t'importe pas mal aussi. Oui. Dans tous les projets que tu racontes. Ouais. Là, il y a quand même toute une économie circulaire, ouais. Ce que tu racontais, ouais. En tout cas. Par rapport au lieu, quoi, ouais. Géographiquement, ouais. En parlant.
Après, effectivement, bah oui, je voyage beaucoup et c'est toujours des projets à d'autres endroits, mais à chaque fois, dans les endroits où c'est, il faut quand même. Enfin, c'est un contexte. Et ça fait sens. Là, ça fait sens à Pointe-Sarène parce que juste à côté, il y a une tradition. Enfin, dans les terres autour, c'est du sorgho et c'est le sorgho, enfin, les résidus de sorgho qui permettent ça. Et typiquement, je pense qu'à 300 km de là, toujours en Sénégal, ça ferait pas de sens. Mais ça, c'est toujours ça. Ouais. C'est. Je crois que c'est la base. Ouais.
Je ne sais pas si vous voulez ajouter encore quelque chose, si vous avez d'autres histoires qui vous viennent comme ça en tête.
Sûrement dans 5 minutes, quand je rentrerai à pied, je me dirai « Ah !» Là, non, comme ça, non.
En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir partagé toutes ces histoires. Nous, ça nous fait vraiment... Enfin, c'est très agréable d'écouter, en fait, de t'entendre parler de toutes ces histoires, parce que ça ouvre encore toutes les perspectives liées aux champignons. Et puis, du coup, ça sera... Ouais, c'est une belle ouverture sur le monde des champignons à partir de tes projets. Enfin, en tout cas, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Oui, merci.